Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Heures passées de quelques minutes sur Radion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre. C'est la rentrée de votre émission littéraire et une rentrée que nous allons passer avec une invitée qui est déjà passée à 3 reprises dans le Wagon Livre, 2 fois au cours de l'année 2013 et son dernier passage date de 2016. C'était avec grand bonheur que je l'accueille une fois de plus. Bonjour Jacqueline Kellen.
Merci de m'inviter à nouveau, cher Yannick Petit, mais je suis ravie d'être là.
Alors vous êtes aujourd'hui devant le micro de l'émission littéraire de Radion pour un récent essai alors paru chez Salvator l'an dernier, en 2019, et qui a pour titre « Le jardin des vertus ». Je tiens à dire d'ailleurs qu'au moment où nous parlons, nous avons enregistré cette émission courant août à Vézelay, et nous sommes, nous, dans un jardin ombragé. C'est le jardin ombragé de l'hôtel de la Poste et du Lion d'Or qui nous accueille. Et je remercie Violaine Livry-Level, la directrice générale de l'établissement, qui nous accueille. Jacqueline Kellen, dois-je vous présenter? Oui, allez, un petit peu. Agrégée de lettres classiques, productrice d'émissions à France Culture durant 20 ans, maintenant retirée des animations radiophoniques, en tout cas en tant que productrice, mais souvent conviée sur d'autres antennes pour vos livres. Que vous publiez assez régulièrement, plus de 30 livres à votre largement.
Oui. Plutôt 40 ou 50, mais ils ne sont pas tous très épais. Hein.
Dans vos ouvrages et au cours de vos séminaires, vous dévoilez la connaissance spirituelle que transmettent les mythes et vous rappelez les richesses de la voix mystique. Quelques titres, alors évidemment, Marie-Madeleine, un amour infini, Divine blessure, Les amitiés célestes, L'esprit de solitude qui a reçu en 2001 le prix des librairies Mieux-être et spiritualité, L'éternel masculin, traité de chevalerie à l'usage des hommes d'aujourd'hui, c'était chez Robert Laffont. Mentionnons, et là on en avait fait une émission, Impatience de l'absolu face au genre inhumain. Et puis plus récemment, il y a eu Le diable préfère les saints et Histoire de celui qui dépense tout et ne perdit rien aux éditions du Cerf. Et aujourd'hui, coup de projecteur sur, je le répète, Le jardin des vertus aux éditions Salvator, maison d'édition catholique qui existe depuis 1924.
Oui, exactement, je crois d'origine alsacienne et maintenant il y a bien sûr un fond, tout à fait une lignée catholique et il n'y a pas en avoir honte, mais il y a aussi des essais, des documents plus largement philosophiques ou littéraires.
Jacqueline Kellen, au début de votre essai, vous écrivez que les ennemis actuels sont ce satané bonheur, le doucereux bien-être et l'obsession de guérir de tout. Est-ce que vous pouvez critiquer encore plus ces 3 points qui vous agacent et qui, d'après vous, torpillent la société ?
Je le crains, enfin, c'est-à-dire cela entretient dans l'illusion. Si, ne serait-ce qu'en France, nous étions tous heureux et nous vivions tous éternellement, ça se saurait. Or, il y a en effet un être en nous, une part en nous très importante qui s'appelle l'ego, et qui est importante, le moi. Parce que ça nous constitue aussi d'une certaine façon. Et puis c'est le moi qui est présent dans la vie sociale, la vie de tous les jours. Et ce moi réclame, le moi se reconnaît au fait qu'il a besoin de sécurité, il a besoin d'être flatté, il a besoin d'être, oui, de recevoir l'amour, l'approbation, la reconnaissance de tout et tous, et de traverser apparemment l'existence sans être ni malade, sans vieillir, et sans mourir. Bon, ça c'est la grande illusion humaine. Et je trouve que on peut passer à côté de sa vie, qui est vraiment singulière et unique pour chacun, en se laissant prendre à ses pièges. La question n'est pas d'être malheureux et de se laisser aller et de ne pas soigner son corps et de refuser toute avancée de la science. Mais ce qui fait l'être humain, depuis que, du moins, on a des traces de son art, de sa philosophie, de sa pensée, ce qui fait l'être humain, c'est aussi le fait qu'il se tienne debout, qu'il affronte, qu'il conquiert sa liberté, qu'il fasse preuve de sa grandeur. Et donc, cette grandeur est nécessairement mise à mal, en effet, dans une existence limitée. J'ai l'impression que tout ce que j'écris, c'est pour rappeler la magnifique liberté possible de l'être humain. Cette liberté qui se laisse prendre au piège ou entamer par des sirènes de soi-disant bien-être, etc., c'est dommage. Or, ce qui fait la stature d'un être humain, lorsqu'il le distingue des autres êtres non conscients ou qui ont moins de conscience, parce que moi j'aime beaucoup les animaux et qui ont une conduite aussi parfois tout à fait saine et belle et morale, ce qui le distingue, c'est justement pas simplement la raison, pas simplement la main qui sert d'outil, hein, comme on le dit, ou le langage articulé. Ce qui distingue, c'est aussi sa stature morale. C'est un être humain qui peut choisir, alors pour faire simple, entre le bien et le mal. Je peux me comporter comme quelqu'un de lamentable, qu'il y ait témoin ou pas, et je peux me comporter dignement, noblement, par rapport à une loi, en effet, qui est en chacun, ce qu'on appelle la conscience morale. Il me semble que chacun l'a. Donc voilà pourquoi, non pas je critique, mais c'est vrai, ça m'agace, pas par rapport à ceux qui en font profession ou beaucoup de marchands de bonheur, mais parce que, en effet, l'être humain risque de gaspiller sa vie. Et c'est au moment des grandes instances, la perte d'un être cher, une maladie, une crise personnelle ou professionnelle, ou sur son lit de mort, qu'on va se dire, bon, à quoi ai-je passé mon temps ? Et qu'est-ce que j'ai comme provision, comme bagage pour passer ce grand passage ? Voilà, c'est ça qui me trouble plutôt. Et nous avons à notre disposition, ça qui est merveilleux, tous les textes traduits. Alors en français, si on est en France, traduit tous les grands textes philosophiques et aussi religieux, et les poètes et les artistes, mais pour ce thème de la morale, des grandes vertus, en effet, nous avons à notre disposition tous les grands textes. Donc ça commence avec Aristote et Platon, donc là on est 5e, 4e siècle avant l'ère chrétienne, qui nous montre une voie d'élévation, de perfectionnement, si c'est encore le désir de beaucoup de nos contemporains. Ça, c'est autre chose.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne devons pas avoir une seule existence terrestre. Il faut aussi tendre vers le céleste, sans forcément être vers le divin.
C'est-à-dire, c'est difficile d'aller vers le céleste. Voilà, c'est ça. Donc, quel que soit le nom qu'on donne, il y a, moi, à chaque fois, je dis, puisque Dieu, souvent, ce terme ou fait horreur, ou est miné, ou galvaudé, ou il sert à tout, y compris les guerres et les horreurs. Donc, on peut dire l'absolu, l'idéal avec un grand I, le principe supérieur, le principe éternel. Enfin, il y a toutes sortes de lettres avec un E majuscule. Donc, ce sommet, en effet, je pense qu'il nous fait signe. Et il me semble qu'en chacun, justement, il y a ce désir, non pas de durer, de prolonger, mais il y a ce désir d'éternité qui s'exprime différemment et qu'on n'arrive pas tellement à exprimer. À savoir, on dit un amour qui durerait toujours. On voudrait que ça continue sans arrêt. Or, je pense que ça cache justement ce désir d'éternité. Or, nous sommes dans un corps limité, avec une vie limitée, je rappelle des évidences. Et donc, comment rejoindre cette part en nous éternelle, et je définirais en disant qui vit d'amour et d'eau fraîche. Cette part éternelle en nous, c'est celle qui désire et qui se sent bien. Le climat de notre part spirituelle, morale spirituelle, c'est celle qui se sent bien dans un climat de beauté, de joie, d'amour, de liberté sans déclin. C'est ça notre être spirituel. Mais si on se complaît dans le glauque, le misérable, le sinistre, etc., attention, là c'est une mauvaise part.
Je rappelle que c'est Jacqueline Kellen qui nous accompagne aujourd'hui pour son dernier essai paru aux éditions Salvator, Le Jardin des Vertus, les quatre vertus morales léguées par la philosophie grecque, puis reprises par le christianisme qui les nomme les vertus cardinales. On parlera juste après la première pause musicale que nous allons marquer. Donc les quatre vertus, je les mentionne, la force, la prudence, la tempérance et la justice. Nous retrouvons notre invité Jacqueline Kellen d'ici quelques minutes. C'est Wagon Livre sur Radio et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Le jardin des vertus, Jacqueline Kellen. Alors, vous opposez le terme de vertu qui a été remplacé aujourd'hui par le terme de valeur. Valeur, d'ailleurs, vous dites valeur républicaine, valeur de droite, valeur de gauche, sans jamais bien savoir de quoi on parle.
Oui, ça c'est quelque chose qui m'a étonnée. C'est toujours intéressant pour cela, ou de lire les journaux, ce que je ne fais pas d'ailleurs, ou d'écouter la radio, ce que je fais quand même à peu près régulièrement, parce qu'il y a une sorte des termes qui reviennent sans arrêt, ou des slogans, des formules toutes faites qu'on reprend sans se poser la question. Et par exemple, surtout en politique, quand il y a des journalistes dits politiques qui interviewent telle ou telle personnalité, quel que soit d'ailleurs le parti, à chaque fois, la personne du parti répond « oui, parce que c'est nos valeurs, nous avons nos valeurs ». Et là, je suis étonnée, je pense que vous ne le feriez pas, vous êtes beaucoup plus incisif et plus que fin, et vous poserez la question. Quand la personne, la femme politique ou l'homme politique dit « ah oui, nous avons nos valeurs », le ou la journaliste ne dit jamais « pouvez-vous préciser quelles sont vos valeurs ?» dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, où est-ce que c'est une référence à la fameuse devise républicaine, liberté, égalité, fraternité? Certains veulent ajouter laïcité. Bon, mais j'aimerais bien qu'on dise, parce que moi, la valeur, je peux mettre comme valeur dans ma vie de m'enrichir absolument, y compris aux dépens des autres. Ma valeur, ça peut être, pourquoi pas, bah, ma valeur, c'est bah, je vais faire le mal ou je vais détruire la terre du voisin. Enfin, je dis n'importe quoi. La valeur, en effet, il y a les valeurs boursières, les valeurs même, on parle de valeurs en termes de température, les valeurs sont plus ou moins hautes en été. Enfin, c'est quand même totalement vague. Si on dit valeur morale, là c'est différent, on s'achemine vers les vertus. Or le terme existe en français et il est beau parce qu'il vient d'un terme qui veut dire, qui a donné aussi, qui vient de vir, donc l'être humain, et c'est aussi la force, c'est-à-dire la vertu, c'est la puissance et l'excellence de l'être humain, ce qui fait sa stature, sa vigueur morale pour affronter en effet l'existence. Et là, ça pose un être humain. Alors ces quatre vertus, en effet, sont décrites.
Je les rappelle, Jacqueline Kellenin, voilà. Force, prudence, tempérance, justice. Alors ces quatre
vertus.
Il y
en a quatre, en effet, et qui sont. Alors on peut les. Elles sont inséparables, mais on peut les prendre dans des ordres différents. Mais on ne peut pas dire je pratique. Après on décrira bien sûr, je pratique la force sans pratiquer la tempérance, à savoir le discernement. Je ne peux pas pratiquer la justice sans pratiquer aussi la force ou la tempérance. Elles sont toutes indispensables et c'est vrai que la métaphore du jardin revient régulièrement parce que les vertus, on ne naît pas avec, ça y est, on est impeccable dès la naissance, on est parfait. Ça c'est ce qu'on fait croire aussi de nos jours. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire aussi « on gère ». Comme si à la naissance, j'avais mon petit tas de vertus ou mon jardin tout cultivé, tout fructueux, et je n'ai plus qu'à gérer. Non, les vertus ne cessent de se pratiquer. C'est Aristote, entre autres, qui prend cette belle métaphore. Eh bien, on s'exerce à la cithare. On fait ses gammes. Un architecte, il étudie chaque jour les bâtiments, les matériaux, etc. Donc, toute l'existence, je vais cultiver, arroser, planter les arbres.
Il y a une persévérance dans l'effort.
Mais bien sûr.
Tout n'est pas acquis.
Il y a une persévérance, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut s'évertuer. Ça, c'est magnifique comme terme. S'évertuer, ça vient du terme vertu.
Vous écrivez « La psychologie a joué un rôle majeur et catastrophique dans le rejet et l'oubli de la morale, Jacqueline. »
Je suis vraiment désagréable.
Mais pas du tout, mais je vous donne l'opportunité, justement, pour une fois que nous n'avons pas que des propos bien pensants dans une émission, il faut en profiter.
Alors, le bon et le mauvais côté, c'est amusant parce que mes livres sont lus aussi par des psys de tous ordres, je veux dire, y compris lacaniens, freudiens, etc. Je le sais par des courriers que je reçois ou des échos que j'en ai, et ça les gêne parce que systématiquement, il y a quand même des petites piques plus ou moins grandes contre la psy ou les thérapies de tout genre. Bon, ce n'est pas contre les personnes, etc. Et je pense qu'il y a tellement de nos jours des contemporains qui sont mal à l'aise, qu'ils ont besoin de recourir à quelqu'un qui les écoute. Simplement, il y a plusieurs choses concernant, je vais dire en gros, la psychologie ou les psychothérapies ou la psychanalyse, c'est qu'elles s'intéressent éminemment, c'est leur propos, au moi dont je parlais au début. Je parle de moi et mes malheurs et mes douleurs et ma famille et pourquoi j'ai pas été aimée ou pas été désirée, ou pourquoi j'ai été quittée ou pourquoi, beaucoup plus grave, j'ai été battue ou abîmée pendant que j'étais petit ou petite, etc. Donc c'est en effet le moi souffrant, le moi mortel, le moi existentiel qui est en cause. Bon, donc comment peut-on en sortir? Moi, je vois toujours qu'on est en train de tourner, de brasser, et souvent par rapport au passé. Or, ce qui fait entre autres une démarche d'être humain libre, c'est que ça commence aujourd'hui. Et mon passé, en effet, si je peux le transformer, c'est admirable. Mais la question, c'est ce vers quoi je tends et ce qui m'attend peut-être. Donc, c'est sans cesse se perfectionner. Si on vit toujours avec l'œil dans le réfrigérateur, dans le rétroviseur, qu'est-ce qu'on fait le jour où on va passer le grand passage, encore une fois? Il y a cela. Le bon côté de la psychologie, ou de la psychothérapie plutôt, c'est qu'elle est sans jugement. C'est son bon côté et son côté dangereux. Vous pouvez, si je suis psy, qu'à Dieu ne plaise. Vous pouvez me raconter que vous avez fait des horreurs, hein, et puis moi, je ne porte aucun jugement. Je ne suis pas un être moral qui vous juge. Donc vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, ce qui vous est arrivé ou ce que vous avez commis comme forfait ou chose peu morale. Je ne juge pas. Hein, mais peut-être j'essaye de vous apaiser ou de vous montrer des façons de vous en sortir. Mais le côté, donc, l'autre face de la médaille, c'est je ne porte pas de jugement. Donc, d'un point de vue moral, qu'est-ce que ça veut dire ? Le psy n'est pas celui qui vous dit vous avez tué père et mère, ce n'est pas bien et vous allez être traduit devant un tribunal ou etc. Va vous dire ah oui, vous aviez les circonstances atténuantes, etc. Donc, et de nos jours, ça aussi c'est quelque chose qui revient sans arrêt, c'est cette fameuse expression qui a l'air de montrer que vous êtes bienveillant et charitable et merveilleux, etc. C'est « Ah non, moi je ne juge pas ». Et je dis « Moi je ne juge pas », ça veut dire que sur le plan moral, vous êtes complètement, vous laissez complètement faire les choses.
Donc la morale est menacée.
Un être moral, mais bien sûr, un être moral est celui qui juge, non pas qui condamne autrui à mort ou à je ne sais quoi, mais avoir un jugement, une perception, ça revient à, en effet, la notion de discernement, ce qu'on appelle la prudence, on va y venir. Si moi-même, je ne sais pas discerner ce qui est une conduite correcte ou noble ou grande d'une conduite infâme ou qui fait des ravages, c'est très grave. Je dois juger sur le plan moral. Voilà. Donc la psychologie, en effet, il n'y a que ça. Et c'est en effet se faire du bien, sortir de cela. Alors moi aussi, quand j'entends il y a une crise ou une catastrophe et il y a une cellule de crise psychologique où on parle de soutien psychologique, je dis pour moi la psychologie n'est pas un soutien, c'est une écoute, c'est très différent. Le soutien, ce qui va vous rendre solide, ce qui va vous rendre ferme, ce qui va vous permettre de revenir à vos racines et de vous élever, c'est la morale ou la spiritualité. Mais en tout cas, il y a une écoute psychologique. Mais il ne peut pas y avoir de soutien parce que la psychologie, on le sait soi-même, un jour vous vous réveillez, vous êtes de bonne humeur, comme on dit. Et puis le lendemain, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, ah ben vous êtes triste, sans grande raison. Le domaine du psychisme, c'est trouble fluctuant, c'est comme l'huile. À la fois, ça peut être beau et nourrissant parce que le psychisme, c'est aussi les émotions, les sentiments. Mais ça va, ça vient. Voilà, un jour, y compris sur le plan amoureux, ah, vous êtes amoureux, vous êtes amoureuse, très bien. Puis le lendemain, ça c'est Proust qui en a parlé magnifiquement bien avant moi, les intermittences du cœur. Et puis deux jours après, trois jours après, ah ben non, je suis plus amoureux. Puis d'ailleurs, avec la fameuse Odette, ah, c'était pas du tout une femme qui me plaisait, qui était mon genre. Enfin, voilà. Donc sur le plan intermédiaire psychique, ça va, ça vient. Donc je veux dire qu'on peut éternellement, du moins pendant 20 ans, brasser ses tristesses, ses douleurs, ses ressentiments, ses craintes, ses peurs, etc. On n'en sort jamais. La seule façon d'en sortir, c'est se relier à son corps et les racines terrestres et se relier avec ses antennes célestes à quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit, en effet, qui lui est indestructible et ne change jamais. On est dans le monde du changeant avec la psychologie.
Alors, effectivement, ne pas trop s'écouter, mais surtout, il faut apprendre à se connaître.
Alors ça c'est très
fondamental.
C'est très différent. Pour moi, enfin, il y a certainement des psys qui font ce travail, hein, encore une fois. Mais dans toute la tradition de la philosophie antique, bien sûr, à commencer par le grand Socrate et Platon, son disciple, qui dit se connaître soi-même. Se connaître, c'est pas psychologique. Je me regarde le nombril et je cherche dans l'existentiel. Non, se connaître, c'est souviens-toi d'où tu viens. Et c'est-à-dire, ça me relie à une origine d'ordre céleste. C'est ça. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ça veut dire que je suis infiniment plus grand, plus vaste que je ne le crois. Et le moi réduit, en effet, je pense que je suis uniquement un moi historique, familial, social, psychologique, etc. Non, mon être profond, donc cette dimension spirituelle en chacun, mon être profond, en effet, vient de beaucoup plus loin et va beaucoup plus haut que le moi psychologique.
Le Jardin des Vertus, c'est le titre du dernier essai de Jacqueline Kellen. Nous allons marquer un nouvel intermède musical et nous revenons dans quelques minutes pour évoquer ces quatre vertus, force, prudence, tempérance et justice.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Le jardin des vertus, les quatre vertus, Jacqueline Kellen, force, prudence, tempérance et justice. Alors la force, il ne faut pas se tromper sur le sens de force, ce n'est pas la brutalité, ce n'est pas la violence, rien à voir avec la dureté, quelque chose de
oui,
sanguinolent, de brutal.
Oui, c'est intéressant comme de nos jours, justement, pour un siècle si doux, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas... Non, on est dans un monde très doux, rose, sucré, bienveillant, comme on dit. C'est un beau terme, la bienveillance, mais maintenant, on est tous bienveillants.
J'ai envie de dire pas de soucis.
Pas de soucis.
Vous détestez.
Voilà,
hein.
Voilà, pas de soucis. Oui, il n'y a plus de problèmes, il y a des soucis, pas de soucis. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et cet optimisme pas spécialement béat, mais totalement illusoire, alors fait écarter ce terme de fort. Le fort, la force, c'est quelqu'un de fort, et c'est capital, et c'est même fondamental, et c'est même, c'est pour ça que moi je l'ai mise en premier, cette belle vertu, parce que sans force, c'est-à-dire sans fermeté d'âme, sans courage, sans vaillance. Alors la vaillance, ça va de l'audace, mais ça peut être aussi la résistance. Mais je suis complètement, l'être humain est complètement déliquescent, lâche, peureux, inconsistant et inconstant. Donc sans courage, mais je ne peux pas vivre. Ou alors je suis complètement manipulé par les autres. Le courage, c'est aussi le courage d'affirmer son existence, sa vie à nul autre pareil. C'est très important. Donc le courage, la vaillance, c'est une vertu. Alors viril par excellence, je dirais, puisque en grec c'est Andrea, donc qui est formé sur aner, qui est l'être, l'individu masculin, mais ça ne veut pas dire que c'est l'apanage des hommes uniquement, c'est vraiment aussi affronter son destin et la réalité. Hein, ce n'est pas les illusions. Donc la force est vraiment une vertu qui vous rend présent à ce monde et qui montre qu'en toute occasion vous faites face. Là, je pense que, oui, c'est une vertu dont notre temps, notre époque manque cruellement.
La force physique ne suffit pas.
Bien sûr que voilà. Non.
Alors,
bien
vous sûr. Listez, puisque bien sûr, vous allez toujours investir les mythes fondateurs de nos civilisations ou de notre littérature. Hein. Donc, c'est Ulysse, c'est Hector, ça peut être Thésée, Jason, Orphée, Héraclès. Les beaux héros masculins, surtout,
voilà.
Hein, il faut
oui,
le dire.
Oui, tout à fait, mais tout à fait, bien sûr. Il y a aussi des femmes fortes, ne serait-ce que dans la Bible, la fameuse Judith qui affronte Holoferne, il y a des femmes fortes. Hein, et d'ailleurs, il y a tout un passage sur la femme forte qui est tout sauf la mégère, même si elle est apprivoisée. Bien sûr, les héros que vous avez cités dans l'Antiquité grecque, entre autres Héraclès et ses Hercule avec ses 12 travaux, Thésée qui affronte le Minotaure, Samson qui, à main nue, il a une force physique extraordinaire, mais il est bien précisé qu'elle vient de Dieu, de l'Esprit divin, qui affronte à main nue un lion qui arrive à déchirer sa mâchoire, pauvre lion, mais en tout cas pour exprimer cette force. Bien sûr, Ulysse, qui est toujours qualifié par Homère de héros d'endurance, c'est une magnifique patience et endurance qui fait partie aussi de la force. Bon, parce que c'est pas le courage, je fais face une fois et après j'arrête. C'est tenir bon, ça c'est une expression que j'aime beaucoup, tenir bon jusqu'au bout. Mais alors ces héros, en effet, on exprime par des actes physiques extérieurs leur force intérieure et leur courage. C'est comme lorsqu'on parle du voyage d'Ulysse pendant 20 ans, c'est aussi un voyage intérieur. Hein. Voilà, c'est toujours une image extérieure qui donne à voir des qualités morales essentielles et intérieures. Donc, la force, c'est en effet pas simplement je fais des actions d'éclat, mais je peux au quotidien, sans action d'éclat, sans exploit, sans le montrer, faire face à une difficulté, traverser une épreuve ou une maladie, ne pas me plaindre, sans arrêt. Être donc patient, faire de la résistance. Ça, c'est une grande épreuve de force et on le sait à travers l'histoire. La résistance, c'est pas spécialement faire sauter des trains pendant la guerre ou choses comme ça, ou lutter contre l'ennemi. On peut aussi faire acte de résistance au quotidien. Et ça,
ou
c'est
alors,
magnifique.
C'est aussi disons les difficultés qu'ont rencontrées certains philosophes face à des pouvoirs politiques aussi.
Ah, bien sûr. Hein,
Socrate, Cicéron,
voilà.
Sénèque.
Voilà. Et alors, la force, mais comme toutes les vertus, pose la question toujours, qu'est-ce que vous êtes prêt à défendre jusqu'au bout, au péril de votre vie? Ça, je pense que c'est vraiment le questionnement moral. Hein. Si on dit oui, je défends ceci, mais à la première occasion, je m'abstiens. Non. Socrate, jusqu'au bout, même condamné à mort, il était déjà assez âgé, et pour des prétextes, il était vraiment des prétextes, non pas des causes, puisqu'on disait qu'il corrompait la jeunesse, pas du tout. Il éveillait la jeunesse à, non pas des dieux de la cité, un culte officiel, mais aux dieux intérieurs. Bon. Et il éveillait les gens, donc on n'aime pas ceux qui éveillent les gens à la liberté. Et il a été condamné à boire la ciguë, et il a accepté.
Et pourtant, un de ses amis lui propose de le sauver.
Alors ça, c'est magnifique, parce que son ami Criton, un ami de longue date, de toujours, qui est riche, qui a les moyens, qui a des vignobles, il lui dit, la prison, ce n'est pas une prison comme on peut en voir de nos jours de haute sécurité, puisqu'on peut y recevoir des amis et parler. Il lui dit, mais je peux te faire échapper, etc. Et magnifique, parce qu'on reconnaît aussi un vrai philosophe ou un être moral. C'est pas je dis ça, mais je fais autrement. Comment il vit ? Et à ce moment-là, Socrate lui dit, même si ma condamnation est injuste, je reste en prison parce que l'important, c'est d'être fidèle à soi-même. Et si je m'échappe, comment vivrai-je le peu de dents qui me reste ? Je vivrai comme un malheureux, quelqu'un qui a refusé son destin, même si ma condamnation est injuste. Moi, en tant qu'être moral, j'accepte les lois de la cité et je mourrai dans la justice intérieure.
Alors, bien sûr, votre livre s'appuie toujours sur la philosophie antique, les mythes et les grandes figures du christianisme. Alors, vous en citez plein pour la force. Ça va de Jacob, en passant par François d'Assise, Catherine de Sienne, le curé d'Ars, Maître Eckhart, Edith Stein, les évangélisateurs, Thomas More. Dietrich Bonhoeffer, là, je connaissais moins.
Ah oui, c'est magnifique. Enfin, c'est une grande figure, pas simplement de la religion protestante, du protestantisme, de la réforme. C'est un des, hélas, à travers des grandes, même si je ne suis pas historienne, mais parmi les dernières grandes guerres et le nazisme en particulier, avec le nazisme, il y a eu l'institution ecclésiastique n'a pas fait preuve souvent de courage et de rébellion, et souvent a accepté, que ce soit le protestantisme, l'orthodoxie, par rapport à Staline, où le catholicisme en France a fait acte, ou du moins n'a rien dit, pour se rebeller ou pour faire sécession. Et justement, il y a eu le mouvement de la Rose Blanche avec deux très jeunes gens, Sophie Scholl et son frère, qui sont morts à 20 ou 23 ans, bien sûr condamnés, et ce pasteur, qui est un grand mystique, pasteur Dietrich Bonhoeffer, qui, lui, ouvertement, en effet, s'est déclaré contre Hitler et avec quelques-uns, il avait fomenté un attentat pour mettre à mort Hitler. Donc là aussi, c'est une question morale. Est-ce que, en tant que chrétien, je peux tuer quelqu'un qui paraît détenteur du mal et faire du mal à beaucoup et plus que ça, des millions. Et donc, malheureusement, il a été trahi, enfermé, emprisonné et condamné. Bon, il est mort de façon atroce, pendu, etc. C'est horrible. Mais ce qui est magnifique, et on trouve ses lettres, c'est qu'il était fiancé en plus à l'époque et il a écrit des lettres et des poèmes admirables en prison où il dit, à la limite, c'est lui qui donne espoir aux proches, à ses parents, à sa fiancée. Il lui dit, mais même le jour de Noël ou le jour de Pâques, mais le Christ passe aussi dans les prisons. C'est une très très belle figure. Il y a plusieurs livres sur lui, mais c'est une très belle figure. Donc de force, encore une fois, jusqu'où ? La question, c'est jusqu'où ça va ? Eh bien, je suis prêt à donner ma vie pour défendre un but, un idéal élevé de bonté, de justice et d'honneur, ce qu'a fait Bonhoeffer.
Alors, refermons le chapitre autour de la première vertu, donc la force. Parlons de la prudence. Alors, la prudence, aujourd'hui, ça peut paraître un peu précaution frileuse, presque la peur. Voilà. Alors que finalement, vous avez prononcé le mot précédemment, il s'agit de discernement, c'est-à-dire voir clair.
Très important, le discernement qui veut dire aussi juger, jauger, apprécier, faire le tri. C'est le sens du tamis. Le bon grain est l'ivraie, il y a la paille et le grain. Il faut distinguer les choses et la distinction n'est pas un rejet. Ça aussi, c'est important parce que de nos jours, on veut toujours, on est très consensuel et on veut que tout aille avec tout, tout s'assente. Non, la distinction fait que vous êtes vous et je suis moi. Et ça, c'est magnifique, justement. On peut parler parce que nous sommes à la fois certainement proches par la grande sympathie, mais nous sommes différents. Et ça, justement, ça permet le vrai dialogue. Et la distinction, le discernement, ça veut dire, ça s'acquiert. Je pense que c'est peut-être un don plus ou moins, mais ça s'acquiert, c'est-à-dire refuser, c'est faire preuve de courage aussi. Faire preuve de courage. Parce que prenons un exemple par rapport à des personnes qu'une personne qu'on peut estimer une amie, et puis ou un ami, et puis qui vous trahit, vous aussi vous pouvez trahir, mais qui vous fait un sale coup, qui vous trahit, etc. Et à ce moment-là, le côté gentil, bienveillant, faussement gentil, etc., vous dit ah ben non, vous trouvez des excuses, ou etc. Alors que le discernement, c'est ben je me suis trompée. Non, il ou elle n'était pas telle et telle qualité que je lui ai par... bon, en rêvant, en voulant très fort, j'ai voulu lui attribuer, par exemple. Donc ça, c'est le discernement. Ou par exemple, le discernement, c'est aussi passer son temps à essayer d'instruire quelqu'un qui n'en a rien à faire ou de lui parler de quelque chose dont il n'a rien à faire. Bon, vous perdez votre temps, votre jeunesse, votre énergie. Bon, c'est des exemples extrêmement simples et vraiment de vie quotidienne, mais le discernement, ça demande aussi du temps, c'est-à-dire ce qu'on ne s'accorde pas de nos jours, à savoir, c'est pas tout de suite, immédiatement, aller... Non, non, il faut délibérer, il faut réfléchir. La prudence, c'est pas tout de suite, c'est l'immédiateté. Là, attendez, est-ce qu'on a les moyens? Est-ce que j'ai la possibilité? Est-ce que j'ai tous les moyens extérieurs et intérieurs de prendre? Et ça, c'est surtout sur le plan de la cité, hein, de ce qu'on appelle le politique. Non seulement gouverner ma vie, mais gouverner le monde, enfin le monde ou son pays. Et à ce moment, on peut prendre le conseil des sages. Hein, le discernement, c'est aussi dire, moi seul, je peux bien sûr me tromper ou me laisser prendre par mes désillusions ou des envies d'idées joyeuses. Et à ce moment-là, je peux demander à un ami véritable ou une amie de m'aider, de me conseiller.
Donc, sagesse, la prudence, c'est le contraire de la folie. Vous le dites d'ailleurs, Jacqueline, hein, sur les bas-reliefs médiévaux au porche des cathédrales. La prudence est le contraire de folie qui sont représentées par des femmes dans des attitudes différentes.
Tout à fait.
Finalement,
tout à fait.
Celle qui est sur la couverture de votre essai, c'est une attitude réflexive, de sérénité, d'ataraxie, de sagesse.
Oui, oui. Alors, pour moi aussi, enfin, je l'ai choisie parce que bon, elle est très belle cette dame. Et puis surtout, alors, puisque moi j'aime tellement l'époque médiévale, même là, si c'est une, il est peu connu. Enfin, en tout cas, je ne connaissais pas ce peintre italien, 19e. Mais
Charles-Édouard Perugini.
Voilà, les vertus dans toutes les bas-reliefs, dans les bas-reliefs des cathédrales ou dans les vitraux, les vertus sont toujours représentées par des femmes, des dames, des nobles dames. Voilà. Parfois un guerrier, mais la plupart du temps de nobles dames. Alors cette couverture, oui, sans nul doute, elle est réfléchie. J'y voyais aussi le thème de la tempérance. La tempérance, la modération, elle est dans en effet un jardin avec une pomme d'or, une orange. Et c'est aussi arriver à modérer en soi. Hein, modérer en soi tout ce qui peut être excessif dans le bon ou dans le mauvais côté.
Alors justement, vous avez prononcé le nom de la troisième vertu, c'est la tempérance. Et je voudrais lire, de fait, la vertu de tempérance s'attaque au bastion du moi arrogant tout puissant. Elle exige que l'on fasse taire son ego, ses prétentions et ses revendications, que l'on contrôle ses impulsions, colère, violence, que l'on jugule l'avidité inhérente au moi primaire grossier. Et là, je poursuis. On constate que cette vertu n'est guère pratiquée de nos jours, où tout citoyen est encouragé à consommer, faire du bruit, à profiter et se faire plaisir. Ce qu'on appelle maintenant addiction, et non plus intempérance, se répand. Addiction au jeu, à l'alcool et à la drogue, au sexe et à la pornographie, à Internet, au téléphone et aux écrans. On remarquera en passant que c'est toujours l'individu qui crée ses propres chaînes et alimente ce qui va le perdre.
Oui, je ne me souvenais plus que j'avais écrit tout cela, mais de fait, je pense que s'il y a une vertu, la vertu la moins pratiquée à notre époque, et pas simplement pour des raisons sur le plan individuel, c'est que toute notre société, quand on dit je vais dévorer le monde, et on détruit la planète, même si il y a maintenant les cris d'alarme, mais sans doute trop tard, en effet, l'homme s'aperçoit, l'être humain s'aperçoit qu'il a tout saccagé autour de lui. Ce qui était un jardin possible, eh bien, devient son propre enfer. Hein, quand on dit, on continue les métaphores végétales, puisqu'on est sous de très beaux marronniers ici à Vézelay, et qu'il y a un peu d'air frais qui passe, eh bien, en effet, fait, c'est l'homme lui-même. Alors, au lieu de dire c'est Dieu, qui, pourquoi le mal alors qu'il y a un Dieu qui a, etc. Non, non, c'est l'homme lui-même qui scie consciemment ou inconsciemment la branche sur, sur laquelle, etc., il est assis, où il pouvait lui aussi faire croître ses vertus. L'intempérance, c'est l'avidité. L'intempérance. Intempérance, c'est je me laisse aller à mes pulsions premières.
C'est un peu la jouir sans entrave, ce que mai 68 a complètement mis en avant.
Exactement. Donc là, c'est encore autre chose. Mai 68, mon Dieu, ça fait déjà plus de 40 ans.
Et 50. On en paye les conséquences.
Oui. Parce que alors, c'était certainement un mouvement, j'allais dire, dans le bon sens, juvénile, de rébellion, etc. Mais ça crée, en effet, voulant faire sauter les barrières, en effet, il y a eu le grand terrain vague en friche, et puis en plus, du passé faisons table rase, etc. Alors que si on nous coupe, continuons la métaphore, si on coupe les racines d'un arbre, ça m'étonne qu'il dure très longtemps. Bon. Donc, l'intempérance, en effet, c'est céder à ses pulsions. Puis il y a la notion d'immédiateté. Je me souviens est-ce que ça existe encore dans le métro à Paris, il y avait ça doit exister, les machines, vous savez, où il y avait des friandises, ou etc., où on mettait une pièce, où on met peut-être encore une pièce, et puis on prend la barre chocolatée, ou je ne sais quoi.
Ben maintenant, il y a même des distributeurs de pizza, Jacqueline.
Ah bon, alors, bon, alors
je ne sais pas. Avec la carte bancaire, on ne met même plus des pièces, Jacqueline, on paye en carte bancaire maintenant.
Voilà. Mais là, je me souviens de ça, ça remonte à quelques années, et c'était surtout le slogan ou l'accroche sur la machine, c'était marqué « Vous avez faim, n'attendez pas ». Et je me dis « Tout est là, tout est là, c'est immédiat ». Non, parce que non seulement il peut y avoir une attente, et surtout sur le plan d'une attente, d'une belle chose qui est douce, délicieuse, etc. Ce n'est pas le résultat, la satisfaction qui compte, mais c'est justement tout le chemin pour approfondir ou aiguiser ou affiner le désir.
Le manque crée le désir, c'est aussi valable finalement dans l'affection, dans les relations amoureuses.
Et ça, on ne sait plus. Avec l'histoire aussi des SMS, tout de suite, autant c'est pratique, un texto, etc., autant on se dit du temps où, et ce n'est pas une rêverie sur le bon vieux temps, c'est pas ça, mais se dire attendre une lettre, par exemple, c'est autre chose que je peux joindre l'autre à l'autre bout du monde et je peux être joint ou jointe à tout moment. C'est épouvantable, ça. L'intempérance, c'est en effet je veux tout de suite être satisfait. Notre époque n'est pas du tout une époque de désir, c'est une époque de convoitise. Le terme est toujours mal compris. Le désir, il n'y en a pas 50. Il y en a un seul. Moi, je ne dis pas lequel. Chacun devrait creuser quel est son seul désir, son désir essentiel. Voilà. Ça, c'est vraiment, personne ne peut vous le dire. Quel est ce vers quoi converge absolument toute votre vie. Ça, c'est important. Les désirs, c'est comme les valeurs, c'est vague. Et les désirs, à notre époque, les désirs, ça veut dire la convoitise, et on crée des faux désirs. Là aussi, je rappelle des évidences. Et notre époque est sous le signe de la répression de la satisfaction, d'où la boulimie et les personnes de plus en plus obèses. Et là, ce n'est pas une critique par rapport aux personnes obèses, mais toute la société fait qu'il faut manger, avaler, dévorer, se faire plaisir. Jamais les termes abominables qui sont sentis abominables comme pour la plupart des contemporains, c'est l'austérité, frugalité, renoncement, comme si c'était horrible. Alors que c'est justement, moi je trouve la question, et ça, c'est pas d'être un ascète et d'un ermite au fond d'une grotte, mais de dire, au lieu qu'est-ce qui manque encore, qu'est-ce qui manque encore, vous devenez bien sûr prisonnier de vos possessions, c'est de dire de quoi je puis me passer. Et là, vous arrivez à ce dont vous ne pouvez pas vous passer essentiellement. Je pense qu'on ne peut pas se passer, en effet, d'amour, d'amitié, etc. Mais je peux me passer de la plupart des choses qui m'encombrent et qui encombrent ma vie.
En fait, quand on regarde les caddies des gens dans les supermarchés, c'est très révélateur.
Ah, c'est horrible.
Parce que moi, je juge superflu, effectivement. Mais ça, c'est un point de vue. Bon, justement, vous rappelez que toutes les grandes écoles philosophiques de l'Antiquité ont prôné la modération, donc l'acquisition de la sagesse, une forme de prudence. Tout est lié, finalement.
Tout est lié.
Force, prudence, tempérance et justice.
Oui, mais alors la tempérance, c'est parce que c'est pourquoi...
C'est le contraire de la démesure.
Donc. Totalement. Et alors ça, c'est la grande valeur grecque. Attention, maintenant, on en parle beaucoup plus de libris, enfin traduit par libris, qui voulait dire orgueil, folie, démesure. Alors à la fois, on ne se mesure pas aux dieux parce que nous sommes que des mortels. Ça, c'était la sagesse grecque qui rappelait en effet que nous étions mortels, ce qu'on oublie aussi de nos jours. Bon. Mais surtout, nous sommes limités et on ne va pas empiéter, faire des folies. Donc, savoir se modérer, ce qui n'est pas une restriction, mais aussi c'est la voie médiane, la juste mesure. Donc, c'est ça, prudence et tempérance, et qui amène en effet à la sagesse. Parce qu'encore une fois, comment peut naître au mieux ma liberté ? Pourquoi, si je dis je peux me passer de ça et ça, ce que disaient Socrate, les philosophes grecs, les autres aussi, et après ce qu'ont repris les moines, la frugalité, qui en plus ne veut pas dire restriction, mais frugalité, c'est comme fructification, ça vient du même mot qui veut dire fruit. La frugalité porte des fruits, mais pas des fruits extérieurs, je suis riche, célèbre et connu, mais des fruits intérieurs de sagesse, comme vous l'avez dit. Et moins je dépends du matériel et des contingences, plus ma liberté peut s'exprimer. D'où le fameux Diogène, qui, fameux philosophe cynique, donc au IVe siècle avant notre ère, qui avait décidé en effet, qui était très, très ironique et très provocateur, et qui peut se passer de tout. Et il vivait dans du sens qu'on appelle un tonneau, ce n'est pas un tonneau de vin, mais une sorte de grande jarre, et qui avait quand même une écuelle pour manger, etc. Et puis un jour, il voit un jeune garçon qui prend de l'eau à une fontaine dans ses paumes et il a jeté son écuelle en disant « bon, je suis encore dépendant d'une écuelle bon. ».
Et magnifique, il cherche l'honnête homme avec sa lanterne en plein soleil dans les rues d'Athènes.
Et en disant « je cherche un homme », au sens en effet, que veut dire être un être humain ?
Alors les stoïciens, bien sûr, aussi se tiennent à l'écart de toute passion. C'est valable même pour les épicuriens. Hein,
l'ataraxie, tout à fait.
C'est-à-dire l'absence de troubles.
De troubles, voilà. Et ça, ce n'est pas le bonheur, le bien-être. C'est ce qui fait qu'en toute occasion, alors on parle aussi d'équanimité, ce qui en toute occasion me permet de retrouver mon axe. Et ça, moi j'ai trouvé, je vais vous dire, quand il y a eu ce fameux confinement, la première chose que j'ai faite, et puis j'ai essayé d'en parler au téléphone avec quelques amis qui n'ont pas toujours compris, je me suis dit, j'ouvre, non pas, enfin la Bible bien sûr aussi, mais ouvrons le journal, le manuel d'Épictète. Donc là on est au 1er siècle, ancien esclave affranchi, et cette phrase, mais capitale, c'est « il y a des choses qui dépendent de nous » et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Et dans ces deux pôles se tient ma liberté. Il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. En effet, je suis née à tel moment dans telle famille, alors plus ou moins grand, plus ou moins, etc. Bon, même si de nos jours, on peut un peu trafiquer l'aspect physique, mais quand même, il y a un donné. Et il y a des choses donc, qui ne dépendent pas de moi. Il y a le donné et ce sur quoi je peux travailler. Et ça, c'est magnifique. Donc là, prenons le confinement. Bon, il y a ce virus. Bon, je ne l'ai pas voulu, ça c'est sûr. Les règles d'hygiène sociale, etc., font que, etc. Ma liberté, c'est qu'est-ce que je fais de ce temps ? Alors, où je me plains, où je déplore, où je crie, où je me gave. On revient là. L'intempérance, où je me gave de séries télé, où je suis sur Internet, où je me plains au téléphone, etc. Bon. Où je me dis, il y a un temps, on est toujours en train de dire, j'ai pas le temps. Là, vous avez 2 ou 3 mois devant vous. Comment je fais fructifier ce temps qui m'est accordé, même si c'est pas drôle tous les jours.
Voilà. Et vous utilisez une très belle métaphore, Jacqueline. Je l'aime énormément. C'est presque en lien avec ce que vous venez de dire, avec une nuance. Vous dites, il y a ceux qui font avancer le navire, il y a ceux qui sont sur le pont et qui flânent, puis il y a ceux qui font des trous dans la coque. Oui. C'est très intéressant, mais c'est très beau cette image. Je trouve que ça s'applique assez à la place de certains individus dans la société de notre époque.
Il y en a beaucoup qui qu'est-ce que c'est, Villebrequin, Marteau, Chignol et tout. Oui.
Alors bien sûr, vous rappelez toujours, c'est ça qui est magnifique, c'est un ouvrage d'une clarté, bon, l'agrégé de lettres, bien sûr,
à ses références remarquables. Merci, parce que la clarté, moi, c'est parmi les plus beaux compliments.
Ah oui, mais vraiment, on apprend énormément de choses et c'est d'une clarté, d'une limpidité, enfin, comme tous les ouvrages de vous, Jacqueline, que j'ai lus jusqu'à présent. Bien sûr, vous rappelez la tragédie grecque, la démesure de certaines héroïnes, de
héros. Qui conduit à la mort de soi ou des autres.
Voilà. Dans la Bible aussi, il y a quelques joyeux fous.
Bien sûr.
Et dans les mythes et les contes traditionnels également, vous préciser aussi que le personnage de l'ogre, voilà, encore un boulimique, un gourmand, qui effectivement, ça donne à toutes ses satisfactions, ses plaisirs, sans restriction. tout le contraire de la petite boucle d'or dans le conte qui est pleine de modération.
Mais qui n'a pas lu, je pense qu'on continue de lire Boucle d'or et je trouve que c'était une belle, c'est aussi un beau sujet sur la modération, c'est juste comme il fallait. C'est pas le fauteuil de papa, c'est pas la chaise trop molle de maman, c'est voilà.
Il nous faut évoquer la quatrième et dernière vertu assez rapidement, Jacqueline Kennen, c'est la justice. Alors, de la force, je récapitule, de la force provient le courage, de la prudence, le discernement, de la tempérance, la modération, de la justice, la rectitude. Et quand je vois j'entends le mot rectitude, je pense souvent à la rectitude morale de quelqu'un qui est mort pas très loin de là où nous sommes, c'est Romain Rolland, la rectitude morale, Romain Rolland.
Voilà. Toute une époque. L'inverse même de la malhonnêteté. Nous sommes aussi dans une époque, à cette époque, on entend, alors parce qu'on est très informés, mais jamais il y a eu à tous les niveaux et à quelques degrés que ce soit, autant de fraudes, de malversations, de malhonnêteté, de mensonges. C'est ça, hein, c'est pas simplement les faux monnayeurs, c'est vraiment la malhonnêteté, le contraire. Alors la justice, c'est en effet, c'est pas la justice des tribunaux, même bien sûr si elle y participe, mais la justice qui participe à la fois du discernement, parce qu'il s'agit de jauger, de juger, mais dans la grande tradition grecque, la philosophie grecque, et également dans la grande tradition biblique du judaïsme, la justice, c'est ce qui couronne l'ensemble des vertus. Mais c'est donc cet aspect de rectitude, de droiture, d'honnêteté, du sans compromission. C'est pourquoi, en effet, on voit une verticalité, le glaive qui n'est pas pour transpercer, mais ou l'épée de la justice, c'est en effet savoir trancher aussi. Donc ça demande du courage, hein, plutôt dire oh non, moi je suis d'accord avec tout le monde, non, moi je pense comme vous, etc. Non, savoir trancher, hein, le nœud gordien. Mais la justice est vraiment, en effet, cette qualité morale essentielle aussi d'être cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc ça devient rare aussi.
Alors, comment définir un homme intègre? Il faudrait revenir à la notion d'homme intègre.
Voilà. C'est un beau terme.
Première moitié du XXIe siècle.
Oui.
Hein, parce qu'effectivement, les fripouilles sont nombreuses dans tous les domaines. Artistiques, littéraires, politiques. Genre, voilà. Je ne voudrais pas être méchant, mais c'est la vérité, Jacqueline.
Oui.
Vous faites le même constat que moi.
Oui, mais tout à fait, parce qu'on est, c'est un monde de fausseté.
Des impostures intellectuelles, il y en a plein. Des impostures artistiques,
sur tous les plans.
Télévisuelles, radiophoniques, il y en a plein, des imposteurs.
Ah non, mais c'est le signe. C'est là qu'il faut faire jouer, en effet, son discernement et oser le dire, donc avoir le courage de dénoncer. Non pas, il ne s'agit pas de dénoncer... comme pendant la guerre, mais de dire, de critiquer, ça c'est le discernement, de critiquer et de dire, mais ça c'est totalement faux, c'est un simulacre, c'est du vent, c'est de la chimère, c'est n'importe quoi, enfin, vous nous vendez.
Revenir à la vérité. C'est
ah
ça,
ben là,
la justice,
ah non, mais là
la
vous
vérité.
Employez un mot absolument, sinon obsolète, presque obscène, la vérité, plus personne, la vérité n'existe pas, vous savez, puisqu'on est dans le monde du relatif. C'est ça la question. Moi, ça m'a fait sourire quand j'ai vu, enfin, assez connu, enfin, c'est un philosophe très, j'allais dire à la mode, sinon mondain, citons-le, Raphaël Antoven, qui a publié, c'était des chroniques, mais qui le faisait à la radio, mais j'ai vu simplement le titre, je n'ai pas acheté le livre, bien sûr, et qui s'intitule « Morale provisoire au pluriel ». L'exact contraire de ce que nous sommes en train de dire. Parce que la morale, il n'y a pas des morales. Il y a une morale, par exemple, qui est, ça veut dire les mœurs. En effet, dans certaines mœurs, on va s'habiller comme ceci, dans certains pays, les mœurs, etc. C'est extérieur. Mais la morale, à travers siècles et dans tous les pays du monde, sur tous les continents, le bien, le mal, le courage s'expriment exactement de la même façon. Le discernement aussi. Donc la morale n'est jamais provisoire, mais elle est justement universelle. Universelle et intemporelle. Et ça, il faut insister là-dessus.
Jacqueline Kennen, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir devant notre micro. Je pense que nos auditrices et auditeurs se réjouiront de vous avoir entendu et je pense qu'ils iront se procurer votre ouvrage dont je rappelle le titre, Le Jardin des Vertus. C'est aux éditions Salvator, sous la plume claire, limpide et vraie de Jacqueline Kennen. À vous, chères auditrices et auditeurs, d'aller à la rencontre de ces vertus cardinales. Enfin, c'est ainsi que le christianisme les
c'est
a nommées.
Au IVe siècle, a repris les vertus, donc les vertus de la philosophie antique.
Voilà. Et en plus, vous rappelez que cardinal, étymologiquement, vient du gond, le gond d'une porte. Donc, c'est aussi l'occasion d'ouvrir des portes, d'avancer et donc de progresser. On n'est jamais
joyeux.
Très bon quand on est sédentaire.
Et c'est joyeux.
Voilà, le jardin des vertus de Jacqueline Kellen.
Merci, merci Jacqueline. Merci de tout cœur.
Merci à nos auditrices et auditeurs. C'est la fin de ce premier wagon livre session 2020-2021. Vous savez, Jacqueline, que l'émission fête ses 10 ans au mois de novembre.
Quelle merveille.
Plus de 400 émissions. Qui aurait cru qu'on durerait autant? Bah, écoutez, l'enthousiasme est là. Les auteurs sont au rendez-vous et nous sommes heureux de leur donner la parole. Très bon congé de fin de semaine à toutes et à tous. Merci encore, Jacqueline Kellen.
Merci.
Au revoir et donc rendez-vous pour le prochain numéro de Wagon Livre samedi prochain, toujours à 11h sur Radion. Au revoir.